On dit souvent que le monde est fou. Une boutade, évidemment, mais pourrait-il l'être véritablement fou? Nos sociétés, nos pays, comme les entreprises ou encore les individus, sont-ils susceptibles d'être traversés par des pathologies contagieuses? Pour répondre à cette question, j'ai eu envie de me tourner vers Ariane Bihéran, qui est diplômée de l'École normale supérieure, docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Ariane Bihéran a enseigné à l'Université Aix-Marseille, donné des conférences au Québec, entre autres à l'Université de Montréal. S'est beaucoup intéressée aux mécaniques du harcèlement aussi dans son travail. Elle nous parle de chez elle en Colombie. Bonjour Ariane Bihéran.
Bonjour Stéphane, bonjour aux auditeurs.
C'est un plaisir de vous avoir avec nous. J'ai en chapeau de présentation évoqué la possibilité que le monde soit fou, que nous soyons collectivement atteints de pathologies. Je ne sais pas si c'est un secteur étudié, mais est-ce que c'est une hypothèse qui tient la route?
Oui, alors ce qui est étudié, c'est la question des pathologies dans les collectifs et dans les institutions ou les entreprises. Mais j'ai personnellement élargi ma recherche sur la paranoïa et sur le harcèlement à la question des totalitarismes. C'est-à-dire, totalitarisme, c'est le moment où le collectif rentre dans un délire paranoïaque et il y a un phénomène très très peu étudié et néanmoins essentiel à étudier, c'est la question de la contagion délirante dans les collectifs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous allons adhérer à une idéologie qui va être complètement déconnectée du réel et qui va entraîner en fait une destructivité folle dans son sillon.
Je présume que dans de pareilles circonstances, et on prendra, si vous le voulez, le temps de déplier les concepts que vous nous avez présentés. Vous avez parlé de paranoïa délirante, entre autres, j'aimerais qu'on y revienne. Mais donc, dans le contexte de cette pandémie, c'est un nécessaire accélérateur à ces pathologies.
Tout à fait. Tout d'abord, je crois qu'aujourd'hui, on a des mécanismes délirants dans le collectif international. Plus exactement, on en avait les prémices déjà depuis des années parce qu'on avait des sociétés, en tout cas occidentales, de plus en plus, fonctionnant de plus en plus sur le mode de la perversion. Et c'est-à-dire les discours paradoxaux, la maltraitance, l'instrumentalisation des êtres humains, que ce soit dans justement sur quoi j'ai travaillé pendant des années, la souffrance au travail par exemple. Et la perversion, c'est l'antichambre de la psychose paranoïaque. Donc effectivement, il suffisait de quelques éléments déclencheurs pour qu'on rentre dans quelque chose de totalitaire, tout simplement.
Le mot est important ici, Ariane, parce que j'ai eu cette conversation avec Frédéric Lenoir la semaine dernière et je lui disais, on est à l'aube ou sur le seuil d'un monde totalitaire ou autoritaire. Lui a préféré me répondre autoritaire et ce sont les risques. Vous parlez d'un monde totalitaire, pourquoi?
Oui, tout à fait. J'ai écrit un livre qui s'appelle Psychopathologie de l'autorité. L'autoritaire, c'est un excès d'autorité, c'est-à-dire que il y a quelque chose de contraignant, on est sous un régime de contrainte, mais il n'y a pas dans le caractère autoritaire une persécution de la subjectivité des êtres et de ce qui rentre dans leur intime. Or, on voit bien aujourd'hui qu'il s'agit de non seulement régimenter les corps, mais régimenter aussi les esprits et pénétrer dans l'intime des individus. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, je suis tombée sur un article, par exemple, qui préconisait aux gens de faire l'amour avec un masque. Alors là, on est carrément dans la pénétration de l'intime des individus. Est-ce que bientôt, on va avoir des caméras dans les chambres pour vérifier que nous ayons des distances barrières dans ce qu'il y a de plus intime pour nous? On voit bien que tout ceci manque complètement de mesure et devient complètement effectivement dans ce regard pénétrant, intrusif et qui prétend également contrôler les pensées. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de penser de façon différente ou marginale, on n'a plus le droit d'emprunter certains chemins de pensée et ceci, ça n'est pas autoritaire, ceci est totalitaire. Et ceci va avec la question de la psychose paranoïaque. Voilà, c'est pour ça que moi, j'emprunte, on pourrait aussi parler de la question de la globalisation, de la réduction des êtres à leur dimension purement biologique. Tout ceci n'est pas autoritaire, tout ceci est totalitaire. Voilà, c'est la nuance que je ferai de façon très rapide.
Mais je m'intéresse particulièrement dans nos circonstances à l'espace pour penser, Et aujourd'hui, c'est comme si tout discours qui s'opposait au langage officiel était non seulement fâcheux, mais devait être éliminé.
Tout à fait, on assiste à une véritable inquisition, hein, où le champ politique intruse le champ des experts, hein, et s'improvise expert au détriment des experts. Hein, on le voit sur nous en France, quant à des représailles sur d'éminents professeurs de médecine ou d'éminents scientifiques qui peuvent marquer un désaccord, hein, par rapport à, non seulement aux diagnostics posés, mais aux solutions proposées. Donc ça aussi, c'est typiquement représentatif de la paranoïa, c'est-à-dire que quand on rentre dans une psychose paranoïaque, on rentre dans le champ du binaire, c'est-à-dire qu'il y a le camp du bien contre le camp du mal, et il n'y a plus du tout de nuance ou d'espace tiers pour penser. Et alors, dès que vous allez emprunter un chemin qui peut représenter ou faire penser au camp du mal, vous allez être assimilé au camp du mal, et à l'inverse aussi. Et ceci est extrêmement problématique parce que cela crée des camps et des clans. Il y a des marqueurs dans le langage qui font qu'aujourd'hui, nous n'avons plus que deux opinions possibles, d'ailleurs dans différents sujets, hein, pas que sanitaires, hein, on peut parler de beaucoup de sujets où maintenant c'est comme ça, c'est-à-dire que nous n'avons plus la capacité de penser, la capacité de faire des nuances, et nous sommes criminalisés, marginalisés, dès que nous apportons en fait une nuance par rapport à ces deux clans. Et ceci est extrêmement grave, et fonde aussi ce qui appartient au registre de la psychose paranoïaque, c'est-à-dire la certitude délirante. Et moi, je crois que ça, c'est un marqueur aussi. Vous savez, Socrate, dans l'Apologie de Socrate, il rappelle, il dit « moi, je sais que je ne sais rien ». Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque où tout le monde croit tout savoir. C'est-à-dire qu'il impose comme sa certitude. Et moi, j'ai envie de poser une question à chacun. D'où vous viennent toutes vos certitudes? Et en particulier, à ceux qui ont les responsabilités de prendre des décisions. D'où vous viennent toutes vos certitudes? Et justifient-elles, du coup, toutes les mesures que nous sommes en train de voir se profiler et qui sont, à mon avis, très dangereuses pour l'humanité.
Pour qu'on puisse se comprendre, ces dangers pour l'humanité, si vous aviez à en présenter quelques-uns, j'imagine qu'on peut soupçonner, mais vos intuitions à vous, la spécialiste des psychopathologies, qu'est-ce que ça peut être?
Il y a premièrement une certitude absolue qui nous a été posée cette année, qui n'est jamais nommée, mais qui justifie tout ce qui va derrière. Et ça, c'est tout à fait aussi assez pathologique, c'est-à-dire que pour justifier toutes les mesures contraignantes sur les personnes, et finalement, en quelques mois, nous avons un détricotage de tous les droits humains, de toutes nos libertés fondamentales, et nous voyons se dessiner une sorte d'apartheid entre ceux qui vont être vaccinés et finalement feront partie d'une sorte de secte d'initiés dans lesquels ils auront accès à différents services, et les autres qui soit refuseront, soit ne pourront pas être vaccinés, puisqu'il y a aussi des gens qui font des voilà, donc, et qui eux seront relayés au rang de rebut de l'humanité. Tout ceci me paraît extrêmement dangereux, et ce premier principe qui n'est jamais nommé, c'est finalement qu'il y aurait, parce que pour justifier tout ça, il n'y a qu'un seul premier principe possible, c'est qu'un virus extrêmement dangereux menace la survie de l'espèce humaine. Sinon, pourquoi toutes ces mesures? Et donc, ce premier principe, il n'est jamais nommé, et il n'est jamais discuté, et il n'est jamais débattu. Il y a aussi un autre point qui me paraît extrêmement dangereux et qui me fait dire que nous avons basculé dans un monde totalitaire, c'est la question du nouvel ordre, de cette nouveauté, du changement de paradigme. Alors on entend la nouvelle normalité, le nouvel ordre. On peut entendre même dans des... pas seulement d'ailleurs, parce que c'est un système, hein, pas seulement du côté des fanatiques du vaccin, de l'autre côté aussi, hein, c'est-à-dire des anti-vaccins, on va entendre les histoires de nouveaux mondes, de nouvelles terres. Je rappelle au passage que ce sont des mots qui ont justifié le génocide des Amérindiens. Hein. Et cette histoire du nouveau qui fait table rase de l'ancien, c'est absolument totalitaire.
Vous vous êtes intéressé aux enfants, entre autres, et aux impacts de cette crise sanitaire sur les enfants. Qu'est-ce que vous voyez comme principaux trouble décalé qui risque d'apparaître après cette année ou ces années tellement différentes de ce que nous avions connu?
En fait, ils sont déjà là, hein, les troubles, puisque tout simplement, par exemple, aux urgences de Robert Debré à Paris, hein, depuis la rentrée de septembre, il y a un enfant de moins de 15 ans qui arrive chaque jour aux urgences pour une tentative de suicide, contre environ un tous les 3 jours, il y a un an. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans une telle politique de destruction du lien social, une telle politique de destruction de notre humanité, que les troubles mentaux, les troubles de souffrance humaine, que ce soit chez les adultes ou les enfants, vont être démultipliés. Donc, troubles qui sont à la fois psychiatriques, hein, c'est-à-dire que face à ce qui est vécu comme une pression ou des maltraitances, voire une forme de torture, hein, de la part du politique, va entraîner des décompensations en psychiatrie, va entraîner des tentatives de suicide ou des suicides avérés et des dépressions extrêmement violentes. Et concernant les enfants, il y a une confiscation totale de la possibilité pour eux de grandir de façon harmonieuse aujourd'hui, avec, encore une fois, même une sorte d'endoctrinement sectaire que l'on entend, et des maltraitances.
Vous avez parlé de la possibilité d'assumer son destin héroïque. Qu'est-ce que ça signifie en ce moment que d'assumer son destin héroïque? Et peut-on vraiment le faire? Parce que ça implique d'assumer aussi cette part de libre arbitre qui demeure en nous.
Et qui nous est confisquée aujourd'hui. Et qui nous est confisquée, et c'est ce que j'ai pu dire dans l'interview que m'a fait Pierre Barnérias pour son film Hold Up, c'est le droit à la vie héroïque. On confisque le droit à la vie héroïque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a le choix d'estimer quelle est la valeur que nous allons donner à nos vies. Est-ce que ce sont des vies purement matérielles, biologiques, conditionnées à la survie, ou est-ce que nous donnons des valeurs transcendantes, j'ai envie de dire divines, de façon universelle, hein, c'est-à-dire des lois qui sont transcendantes à nous pour nous humaniser. Je prends l'exemple, hein, que j'avais pris également de saint François d'Assise, quand à un moment donné il va aider les lépreux. Il va aider les lépreux parce qu'il va donner sa vie en sacrifice, c'est-à-dire va la rendre sacrée pour maintenir le lien humain et maintenir l'humanité. Et je crois qu'aujourd'hui nous nous voyons confisquer ce droit. Que ceux qui ont peur, on puisse les respecter, et c'est tout à fait respectable, et il n'y a aucun problème. Mais pourquoi ne pourrions-nous pas finalement nous remettre dans ce droit? Moi, personnellement, j'ai vécu une année extrêmement éprouvante, parce qu'en Amérique du Sud, nous avons atteint un seuil de pauvreté, d'extrême pauvreté extrêmement préoccupant, hein, qui se parle en plus de 83 millions, hein, d'extrême pauvreté qui a été précipitée par ce qui s'est passé cette année. Et finalement, le droit à la vie héroïque, c'est de pouvoir chérir ce lien social, chérir ce que nous avons d'amour entre nous. Et personnellement, je suis très préoccupée par la fermeture des lieux culturels, la fermeture des lieux artistiques, la fermeture des restaurants, etc. On nous dit que ça n'est pas essentiel, mais ça veut dire que nos vies sont réduites à quoi? Sont réduites à aller travailler et servir comme des instruments, un système économique capitaliste. Qu'est-ce que ça signifie?
Vous avez dit que ce concept du destin héroïque a été développé dans Hold Up, qui est le mot qu'on ne peut plus prononcer parce que ce documentaire engagé, disons-le, a été très vilainement reçu. Il y a eu une charge à fond de train qui a été organisée contre le documentaire. D'ailleurs, il a été débunké par mon antenne aussi à Radio-Canada. Je n'ai pas franchement d'opinion définitive sur le documentaire, sinon qu'on devrait avoir le droit de s'exprimer et d'avoir des opinions divergentes de la doxa. Donc, est-ce que vous êtes, selon vous, personnellement attaqué? Est-ce qu'on cherche à vous faire taire?
On cherche surtout à décrédibiliser en fait tous les intervenants, et nous avons eu dès la sortie du film du réalisateur, je dirais, certains médias, alors la majorité s'est mise à empêcher quelque part les gens d'avoir accès à leur esprit critique en voyant un film contradictoire qui certainement présente beaucoup de maladresse et de toute façon reste une vision mais doit être entendue pour pouvoir se forger son esprit critique. Et nous avons, nous tous les intervenants, effectivement été ciblés un à un me concernant par... C'est un exemple, hein, c'est pas le seul, puisque je vis des calomnies de façon différente sur ma personne, hein, ça attaque toujours la personne, évidemment. Et donc, me concernant, par exemple, ma page Wikipédia, qui existe depuis 10 ans, a été nettoyée, complètement nettoyée, moins 36 000 signes. Il y a une page Hold Up sur Wikipédia qui a été créée, où on m'accuse d'avoir signé une pétition sur la légalisation de la pédophilie. Déjà, une telle pétition, par exemple, n'existe pas, et je n'ai rien signé du tout. On a le Conspiracy Watch, qui est un espèce d'organisme extrêmement inquiétant, qui vise à cibler ceux qui ne pensent pas comme la doxa ou l'inquisition actuelle l'exige, donc qui également fait toute une liste des individus. On a les éthéticiens, enfin, il y a toute une série d'équipes qui a été dédiée sur les réseaux sociaux et sur les médias à nous calomnier, effectivement, un par un. Donc, c'est finalement même plus intéressant, quelque part, que le film, hein, le phénomène qui s'est manifesté.
La réaction.
Oui.
Aujourd'hui, si on veut faire taire quelqu'un, on peut dire qu'il est raciste, on peut dire qu'il est homophobe, on peut surtout dire qu'il est complotiste. Et ça nous guette tous après la diffusion de cette entrevue. Je serai peut-être au nombre des complotistes et on voudra me faire taire. Comment expliquer qu'on se rallie si facilement à cette étiquette, alors que le travail de la pensée basique, c'est simplement de poser des questions?
Oui, et d'avoir le droit de se tromper, d'avoir le droit d'avoir des milliers d'opinions. C'est-à-dire que, bon, moi, je ne sais pas, quand j'étais enfant, mes parents, quand ils invitaient des amis à la maison, ils avaient des milliers d'opinions politiques sur lesquelles ils débattaient, et c'était extrêmement passionnant, et tout le monde était dans le respect mutuel, et il y avait une diversité, une richesse. Aujourd'hui, c'est pour contre, c'est extrêmement pauvre, et complotisme est un néologisme, d'abord c'est un mot qui ne veut rien dire, on dit d'ailleurs hein, que les délires psychotiques créent des néologismes, hein. Tout ceci doit être aussi un avertissement pour nous, parce que complotiste, si ça veut dire qu'il dénonce des complots, je suis désolée, mais la politique, elle fonctionne sur le complot et le secret, hein. Ce ne sont pas les pauvres du peuple qui s'amusent à comploter. Hein. Donc dénoncer des complots, ça peut être très important, ça peut être très sain, mais on constate quelque chose de très délirant de part et d'autre et de cristallisation et surtout de rejet et de stigmatisation d'intellectuels, de médecins, d'artistes. Tout ça vraiment à des relents totalitaires extrêmement problématiques.
Mais entendons-nous, Ariane, ces médecins, ces artistes, ces penseurs, auraient-ils tous tort qu'ils auraient le droit d'avoir tort et de poser des questions?
Tout à fait. Mais nous ne sommes plus à une époque où nous avons le droit de poser des questions. Nous avons le droit d'avaler la pilule des réponses qu'on nous donne.
J'ai envie de terminer sur une note un peu plus joyeuse, Ariane, parce que j'ai découvert votre travail avec un petit livre, Soyez solaire. Vous m'avez rappelé que vous aviez écrit plutôt Se sentir en sécurité. Que peut-on faire comme individu pour ne pas perdre le Nord, entretenir son libre arbitre et surtout ne pas succomber à la paranoïa? Garder le sourire.
Je crois qu'il faut se rappeler que notre pensée, c'est comme le vent, c'est-à-dire que c'est impossible de la contrôler et de vouloir enfermer le vent. Hein. Donc, c'est très important de rester dans la bienveillance envers autrui, c'est la priorité, et de pouvoir identifier quels sont les marqueurs qui nous poussent dans des posture extrême, parce que tout ce qui s'est passé cette année est extrêmement déséquilibré. C'est important d'avoir de l'équilibre et de la mesure, c'est-à-dire entre la liberté et la contrainte, entre la vie et la mort, voilà, de ces équilibres-là, ce juste équilibre entre l'immobilisme et le mouvement, entre la partie festive et la partie sérieuse de la vie, entre la norme et la marginalité, et tout ça, ça doit toujours être en mouvement. C'est-à-dire qu'une norme, elle ne peut pas se passer d'une marginalité qui l'interroge. C'est très important qu'elle ait une marginalité qui l'interroge, etc., etc. Et aujourd'hui, on voit que ce jeu-là, en fait, cette fluidité n'est plus possible. Donc, il faut d'abord la retrouver en soi. Pour la retrouver en soi, il faut d'abord faire taire sa peur. La peur ne peut pas être ce qui conduit notre véhicule. Et ça, c'est très important. Et quand j'ai écrit ce livre, Se sentir en sécurité, c'était la base. C'est-à-dire comment nous, individus, nous pouvons reprendre le pouvoir sur nous-mêmes en constatant que nous sommes maîtres de nos émotions. C'est-à-dire que les stoïciens, ils disaient que les émotions sont des sortes de maladies de l'âme parce que ça met toujours l'âme en inquiétude. Donc, il faut revenir dans ces émotions pour pouvoir calmer la peur. Parce que par la peur, nous nous prenons... Je ne dis pas que la peur est mauvaise, parce qu'elle peut être très bonne conseillère, mais pas toute seule. Hein. Il faut toujours avoir de l'intelligence et aussi une bienveillance et de l'amour qui conditionnent nos gestes. Alors, je vais me référer à Hannah Arendt, à la philosophe, hein, pour le totalitarisme, parce que je crois que c'est très important. Ce qu'elle disait, c'était bien que l'initiative personnelle, la créativité individuelle, ce qui est imprévu et non maîtrisé dans le programme, c'est ce qui est important de développer. Hein. Donc, il faut préserver son espace de sécurité intérieure, son espace intime, revenir à quel est le sens de ma vie, quel est le sens que je veux donner à ma vie, qu'est-ce que c'est la vie pour moi, qu'est-ce que c'est être humain, qu'est-ce que c'est l'humanité, et à partir de là, je verrai ce que j'accepte ou pas, ce à quoi je consens ou je ne consens pas, et quelle est ma propre responsabilité. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous considérer comme des enfants qui obéissons à des politiques qui peuvent être folles furieuses. Nous avons une responsabilité du monde tel que nous allons le transmettre à nos enfants. Et ceci me paraît chacun. c'est pas une responsabilité qui peut se déléguer. On est maître de notre véhicule, tout à fait. On doit redevenir maître de notre véhicule. Et pour ça, reposer des questions fondamentales. Comment est-ce possible qu'en quelques mois, nous détricotions tout ce que nos ancêtres ont construit en des millénaires? Comment est-ce possible? Comment l'acceptons-nous? Il y a des gens qui sont morts, qui ont combattu dans des combats sociaux et politiques pour que nous ayons les libertés que nous avons eues. Comment acceptons-nous ce délitement aussi facilement? Comment acceptons-nous de nous laisser encore une fois traverser par la haine, par la haine de l'étranger, même au sens de virus étranger? Je veux dire, le corps humain, il est composé de virus, il est composé de bactéries, il est composé de toute cette diversité. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qui est complètement hors du champ de la sagesse, j'ai envie de dire, et de la juste mesure.
Chose certaine, on est dans le champ de la peur depuis un an. Nous ne l'avions pas choisi et nous avons tenter de vivre avec cette année. Je nous souhaite pour la prochaine année de la dompter davantage notre peur, pour penser pour nous-mêmes et faire les choix qui seront pour nous bons. Ariane, je vous remercie beaucoup. Ariane Bierrand,
merci
en direct chez vous en Colombie.
Merci infiniment.
Et au plaisir de vous reparler.
Oui.